On me dit que je peux commencer les hostilités. Donc, c'est la meilleure qui arrive. Bon, c'est un plaisir pour moi d'accueillir Stéphane Sarade, qui est le conférencier du jour. On se connaît depuis un certain temps.
Quelques années, oui.
Quelques années. Donc, en préambule, donc d'abord, avant de le présenter, n'oubliez pas que c'est à partir d'aujourd'hui la fête de la science, qu'il y a des choses partout qui se passent. Et pendant que j'y pense, n'oubliez pas que le 5 novembre, il y a également une journée sur la chimie verte et durable, avec des conférenciers plutôt industriels. Donc, l'objectif étant de faire parler des industriels ou des créateurs d'entreprises autour de la chimie verte. Donc, le 5 novembre, ça paraîtra dans la presse, j'imagine, oui, juste comme ça. Et le programme est sur le site de l'espace Mendès France. Voilà. Alors, revenons au cœur du débat. Donc, avant de laisser la parole à Stéphane, je voudrais dire quelques mots sur son cursus, qui est quand même consistant et intéressant. Bon, il a commencé, peut-être pas d'ailleurs, à Pierre-Latte comme chef de labo de milieu supercritique et membrane, avant d'aller à Marcoule comme chef de service de procédés de décontamination nucléaire. En 2009, il a été chef département, et il est toujours, de physico-chimie à Saclay, où il a la responsabilité de 250 personnes autour de l'énergie nucléaire, mais pas que. Il est directeur de recherche CEA dans le domaine des fluides supercritiques et membranes depuis 2011. Il a également d'autres activités, comme celle de président de l'Institut d'innovation des fluides supercritiques. Je ne sais pas si c'est un institut d'ailleurs, c'est une association. C'est intéressant parce que fait de la prestation et beaucoup de relations internationales. Donc c'est à la fois une association au sens premier du terme et une société à but non lucratif, pour les activités commerciales. Il est également vice-président du pôle de compétitivité Trimatech, des trois régions, PACA, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, pour les fluides supercritiques, membranes, milieux confinés et micro-algues. Ça peut être intéressant pour ce qui nous concerne aussi. Il est responsable de la chaire Paritech Areva, Nuclear Engineering. Et il va nous parler de chimie verte parce que même dans le nucléaire, on s'intéresse, et il s'intéresse depuis longtemps à la chimie verte. Il va vous expliquer et il va vous présenter ses vues sur la chimie verte. Voilà, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, Joël.
Merci beaucoup, Joël. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Mesdames et messieurs, merci d'avoir le courage de venir écouter parler de chimie à 18h30 un mercredi soir. Donc, je vous en félicite. J'en suis très, très honoré. Et ça a failli. Et c'est de ma faute, puisque devant être obligatoirement à Paris demain matin, je vais tout vous raconter. Je devais prendre le dernier train qui part à 21h25. Donc, c'est pour ça qu'on a malheureusement avancé. Voilà, donc effectivement, je vais vous parler un petit peu de chimie et de chimie verte. Oui, je suis au CEA, oui, je bosse dans le nucléaire, et oui, je vais vous parler de chimie verte. Et ça peut paraître de la provocation. Il y a beaucoup de gens, de journalistes qui aiment ça, la provocation. Vous allez voir qu'en fait, les procédés qu'on a développés, que je vais vous présenter, ont d'abord été développés par le nucléaire. Pourquoi ? Vous imaginez que depuis 70 ans, puisque ce soir, à la Cité des Sciences, et entre venir à l'inauguration de l'expo sur la Cité des Sciences, les 70 ans du CEA, et Poitiers, je suis ici ce soir. Voilà, ça vous montre mon engagement pour la vulgarisation de la science et de la chimie. Il y a 70 ans, on a commencé à travailler sur les produits les plus impactants sur l'environnement et sur la santé humaine. Vous pouvez l'imaginer, la radioactivité. Depuis 70 ans, on se pose des questions de ressources, de recyclage, d'en utiliser le moins possible, d'exposer le moins possible nos opérateurs à leur radioactivité. Depuis presque 70 ans, on pratique à large échelle le recyclage des combustibles nucléaires. Si je vous dis préservation des matières premières, recyclage, limitation de l'exposition, limitation de la création de déchets, vous allez vite voir qu'on ne va pas très très loin de la chimie verte. Et moi, depuis tout petit, Joël le sait, je suis tombé via les procédés, puisque je suis ingénieur agroalimentaire de formation, hein, ce n'était pas dans mon CV, pour vous dire qu'en fait, moi, ma formation, ce sont les procédés. Alors, voilà, donc on va aller vite. Voilà, ça fait quelques années, vous avez pu le voir, que je m'exprime un petit peu trop selon ma maman, qui me jugeait un peu hyperactif. Donc en fait, vous avez les logos des structures à laquelle j'appartiens. Effectivement, CEA, c'est la plus importante parce que c'est celle qui me mène un salaire et qui me permet de payer ma pension alimentaire. Voilà. Les autres, c'est du bénévolat, tout l'ensemble. C'est ma manière à moi d'investir et d'être dans une optique. La science, la chimie en particulier, n'a de sens que si elle sort des laboratoires, elle crée des emplois, elle crée de la valeur ajoutée. C'est un peu ça ma force motrice, d'où le fait d'être dans pas mal de structures autour de la création d'entreprises et l'accompagnement. Donc vous avez ici mes coordonnées, mon mail et mon blog. Alors, je vais directement parler de chimie. Alors, un petit peu de chimie, je vais quand même regarder l'heure parce que je suis très bavard. Un petit peu de chimie, vous savez qu'en France, on a quand même le monsieur chimie reconnu mondialement, hein, Lavoisier. Même si vous n'êtes pas chimiste, vous savez que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Et puis j'ai un très bon copain que vous connaissez peut-être qui s'appelle Roland Lehoucq, qui est astrophysicien au CEA, qui fait beaucoup de vulgarisation, beaucoup mieux que moi d'ailleurs, parce que j'ai toujours, quand je serai grand, je vais être Roland Lehoucq. Il me dit, tiens, regarde, ça, il me dit, c'est pour toi, j'ai trouvé ça. Souvent, j'entends l'opposition chimie entre naturel et artificiel. Ah, votre truc, il est chimique. Ben, regardez une banane naturelle, ce que c'est en fait, hein. C'est ça. Et ça, si ce n'est pas de la chimie, je ne sais pas ce que c'est. Donc effectivement, voilà, on va en parler, je pense, j'espère qu'on aura un débat là-dessus. La position de la chimie, comment on se positionne par rapport à ça. Et puis la chimie, il y a un très très gros problème, un très gros syndrome, je ne sais pas si vous le connaissez. On appelle ça le syndrome d'Eric. C'est-à-dire que d'Eric, vous voyez, dans la maison de retraite allemande, il a fait beaucoup de dégâts. La chimie, c'est souvent ça, quoi, hein. C'est souvent un peu, on se rappelle les cours de chimie... Il fallait apprendre, c'était compliqué, ça sentait pas bon. Donc effectivement, alors vous imaginez, moi j'ai nucléaire, chimie, je travaille sur les nanomatériaux. Il me manque les OGM et là j'aurais vraiment, la position de tête de Turc. Alors on va parler de chimie verte, puisque c'est un petit peu ça l'enjeu aujourd'hui. Et la chimie verte, en fait, c'est quelque chose qui est un paradoxe, qu'on appelle même un oxymore quand on veut jouer au gars qui sait bien parler français. C'est né d'un paradoxe, c'est-à-dire comment on va concilier l'industrie chimique, ayant en tête que l'industrie chimique, c'est la deuxième industrie française en termes de pourvoyeur d'emplois et de richesses. Donc on ne peut pas négliger l'industrie chimique quand on est en France. Au niveau européen, on doit être deuxième ou troisième derrière les Allemands, de tête. Derrière les Allemands. Donc forcément, l'industrie chimique en France, ça a beaucoup de sens. Il y a des noms que vous connaissez forcément, Rodiard, Kema, Solvay... et puis, ce qui est apparu à la fin du XXe siècle, c'est comment on va être capable de concilier cette industrie chimique avec les contraintes environnementales. En ayant en plus un prérequis, ou je dirais un actif qui dit « Ouais, mais quand même, l'industrie chimique, c'est ça, les tontons flingueurs. » Ils se sont partagés un peu le grisby. Toi, tu fais la pétrochimie, moi, je fais la pharmacie. Et puis, alors, les effluents, les déchets, tout ça. C'est un peu ça, quand même, l'image. Hein. Je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais en tout cas, moi, souvent, quand je suis en conférence avec le grand public, forcément, on a cette image-là d'une industrie chimique qui, historiquement, n'a pas toujours été, on va dire, un modèle. Alors, en fait, ce qui se passe, et je dirais, la chimie, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est partout, mais qui n'apparaît pas en première intention. Et moi, ce que j'aime bien essayer de faire, c'est de faire réfléchir sur les enjeux de notre société, nous, nos enfants, nos petits-enfants. Quand on regarde les principaux enjeux de la planète à l'heure actuelle, ils sont là. Et dans chacun de ces enjeux, vous allez trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de chimie. Donc être contre la chimie, de toute façon, c'est juste quelque chose qui n'est pas intellectuellement concevable. Par contre, c'est que choisissons la chimie avec laquelle on veut vivre. La nourriture. Vous avez à l'heure actuelle... à peu près 900 millions, moins d'un milliard de personnes qui souffrent de malnutrition dans le monde. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a moins qu'avant, et ça diminue. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont quand même encore 900 millions. Donc, nous, la nourriture, c'est quoi? C'est l'agriculture et l'agroalimentaire. La nourriture, c'est l'agriculture, c'est des intrants, c'est-à-dire des engrais, des pesticides, c'est de la chimie. Et il faut savoir que dans certains endroits du monde, notamment en Afrique ou en Asie du Sud-Est, 70 à 80% de la production agricole est perdue. Elle est perdue parce qu'ils n'ont pas les outils pour transformer ces produits agricoles, ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire. Ils n'ont pas les conserveries, ils n'ont pas la chaîne du froid pour la congélation, la surgélation, y compris même la salaison. Enfin, toute cette, ça, c'est de la chimie aussi, bien évidemment. Donc, l'agroalimentaire, enfin, la nourriture, produire la nourriture et en produire de plus en plus, c'est difficile d'imaginer de le faire sans chimie, à l'heure actuelle. Les médicaments, la santé. En fait, la santé, nous, en Europe, dans les pays occidentaux, on ne meurt plus de maladies infectieuses. Je mets le sida de côté, puisque c'est une pandémie un peu particulière, mais on ne meurt plus de maladies infectieuses. Est-ce que vous savez quelle est la première cause de mortalité dans le monde ? Non, la malaria. Donc, on meurt massivement dans le monde d'une maladie que l'on sait soigner. Puisque l'artémisinine, hein, la plante, c'est l'armoise dorée. Donc, on sait extraire l'artémisinine, donc le principe actif pour lutter contre la malaria. À part que les gens, ils ont la malaria dans des pays non solvables. Croire qu'ils le font exprès, on dirait. Mais, Et oui, c'est ça, là, en fait. Le vrai cynisme, il est là. C'est qu'on sait soigner. Alors, on meurt beaucoup de grippe, on meurt beaucoup de tuberculose, on meurt beaucoup de rougeole. Donc, l'enjeu à l'heure actuelle, c'est comment allons-nous être capables de fabriquer de plus en plus de principes actifs. Mais là, on les connaît, ceux-là, mais à des coûts le plus bas possible, de manière à en produire et à sauver un grand nombre de personnes. Et nous, parce qu'on est quand même toujours là, mais nous, on meurt de quoi ? On meurt de maladies de vieux, puisqu'on vieillit. Donc, les dégénérescences cérébrales, les cancers, où là, on n'a pas forcément les stratégies de thérapie. Et là, il y a des grands enjeux de la chimie, hein, sur la thérapie génique, sur les nouveaux modes. Il y a des modes de thérapie à développer face à ces maladies qu'on connaissait un peu, mais qui deviennent maintenant très importants dans nos pays. Donc la santé, il y a de la chimie. L'eau potable. Alors là, l'eau potable, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Vous avez 700 millions de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable dans le monde. Vous avez 2 millions d'enfants qui meurent chaque année du non-accès à l'eau potable. Donc le président du Conseil mondial de l'eau, en 2001, en septembre 2001, 8 jours après les attentats des Twin Towers, à l'ONU, il a fait une déclaration. Il a dit, voilà, je vais vous expliquer ce que c'est 2 millions d'enfants qui meurent chaque année. C'est un Boeing chargé de gosses qui s'écrase toutes les 2 heures. Je peux dire qu'il avait refroidi l'ambiance, hein, à ce moment-là. Mais il voulait choquer les esprits. Et la ressource en eau, c'est quelque chose qui va devenir, vous le savez, prépondérant dans les années à venir. Et le traitement de l'eau, c'est de la chimie. Si on veut produire de l'eau potable à partir de l'eau salée, si, imaginons que vous mettez toute l'eau de la planète dans une bouteille de 1 litre. Vous imaginez la planète bleue, 70% d'eau. On met tout ça dans une bouteille de 1 litre. D'après vous, quel est le volume qui correspond à l'eau potable accessible pour nous ? La moitié d'une cuillère à café. D'accord ? C'est 0,065% de l'eau qui est directement accessible. Et puis en plus, vous le savez, la mère nature, elle a de l'humour, ce qui fait que l'eau n'est pas de manière homogène distribuée partout dans le monde. Donc le dessalement de l'eau de mer, parce que l'eau de mer, vous l'avez compris, c'est 90% des ressources en eau, c'est de la chimie, ce sont des membranes. Vous avez entendu que je vais parler de membranes, j'ai fait beaucoup de membranes dans ma vie, notamment pour le traitement d'eau. Et puis l'eau, quand il faut la mener dans un centre urbain, il faut la traiter. Si votre eau elle a un petit goût de chlore, c'est pas par hasard. C'est que s'il n'y a pas ce chlore, s'il n'y a pas ce produit chimique, on ne peut pas alimenter sans risque les centres urbains. L'énergie, alors c'est vrai que je suis au CEA, donc je connais un peu l'énergie. L'énergie, ce sont les transports, l'industrie et l'habitat. Alors on va faire simple. Voilà, on est là au niveau énergie en 2015. En 2030-2040, x2. Si on ne fait rien, la demande en énergie dans la planète va être multipliée par 2. Parce qu'il y a des gens que vous connaissez qui s'appellent les BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ces quelques pays vont représenter très rapidement la moitié de la population mondiale. Et eux, je peux vous dire qu'ils ont faim, ils ont soif, ils ont envie des bagnoles comme nous, ils ont envie d'appart avec la clim comme nous. Et donc, on s'attend à ça. Donc là aussi, la chimie, on peut l'imaginer, quel que soit, et je ne parle pas de nucléaire, hein, quel que soit les types d'énergie, vous aurez besoin de chimie. Et l'environnement, bien sûr, ce qui a changé par rapport au XXe siècle, c'est que maintenant, on raisonne pour l'environnement en disant que tout ça, il va falloir le faire en préservant l'environnement, c'est-à-dire en prélevant un minimum de ressources et de matières premières et en rejetant un minimum de déchets. Voilà. Alors ça, c'est le seul transparent anxiogène. Après, vous allez voir, on va rigoler un peu plus. Alors comme en plus, c'est celui-là, j'en profite. On est 7 milliards. 2030-2050, 9 milliards d'habitants. Donc c'est déjà compliqué, ça ne va pas s'arranger. Et si je vous dis qu'en 2030-2050, on imagine que 85 à 90% de la population du monde vivra dans des métropoles. Des endroits où il faudra amener de la nourriture, soigner, de l'eau potable, de l'énergie et traiter les déchets. C'est ça l'enjeu à l'heure actuelle. Donc je dirais se focaliser sur la chimie, c'est bien, hein, mais c'est bien de se focaliser sur les vrais sujets. Et pour moi, les vrais sujets, ils sont là. Alors la chimie verte, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est apparu, on va en parler, sur la base d'une réflexion, en disant que la chimie du 21e siècle, comment elle doit fonctionner? Elle doit fonctionner en limitant l'impact de la chimie sur les opérateurs. N'oubliez jamais que dans l'industrie chimique, il y a des gens, des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs, qui sont au contact en permanence avec des produits chimiques. Il y en a d'autres qu'on commence à médiatiser, malheureusement, sont les agriculteurs. Les maladies professionnelles, les agriculteurs, ça a été très longtemps un tabou, ça commence à devenir une réalité, on en parle. Parce qu'ils en manipulent des produits chimiques, hein, toute la journée. Hein. Puis avec la politique européenne agricole, ils avaient intérêt à produire. Et ils ont produit. La France a été un des premiers, je crois qu'au niveau français, au niveau européen, on est le premier consommateur, utilisateur de pesticides en Europe. Hein. Parce qu'il fallait produire, parce que justement, on avait du financement. Donc ça, c'est les opérateurs, jamais les oublier. Deux, limiter l'impact de la chimie sur les consommateurs, c'est-à-dire vous et moi. Nous, on consomme des produits. Ici, on a une moquette qui est un produit chimique. Imaginons que cette moquette soit fabriquée avec un produit qui n'est pas terrible et qui, très gentiment, quand la température monte, va commencer à dégazer, à sortir, se désorber de cette moquette. Et vous ne le savez pas, et on va commencer à manger des produits chimiques. Donc c'est ça les concepts, hein. C'est de ça dont on a peur essentiellement. C'est ce contact par rapport à la chimie qu'on n'est pas capable de maîtriser. Et le troisième point, j'en ai parlé, c'est limiter l'impact de la chimie sur l'environnement, c'est-à-dire, de toute façon, comme l'a dit Paul Valéry, moi j'habite à Montpellier, donc j'ai beaucoup d'affection pour ce grand poète qui est Paul Valéry, en 1945, il a été le premier à écrire « Voilà le temps d'un monde fini ». Il avait compris que le monde était fini, c'est-à-dire que les ressources du monde étaient finies, que l'eau n'était pas infinie, que le pétrole n'était pas infini. Donc, on doit limiter les prélèvements et en même temps limiter les déchets. Alors, historiquement, et ça, Joël pourrait en parler beaucoup mieux que moi, il y a un gars qui est apparu dans les années 90. Il n'était pas tout seul, mais il a focalisé beaucoup de choses. Puisque une structure américaine, EPA, Environmental Protection Agency, a été créée de manière à réfléchir, pour que les Américains aient une administration pour réfléchir sur la pollution du 21e siècle, l'industrie chimique. Et dans cet institut, dans cette agence, plusieurs chercheurs, dont un, qui en 99, coécrit un article scientifique qui s'appelle Green Chemistry, an Overview. Et il est le premier à utiliser le terme de green chemistry. Et en 98, vous avez la couverture de ce livre, il a écrit Green Chemistry, Theory and Practice, où là, il a décliné, il a structuré. Il dit, mais voilà, la chimie verte, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une nouvelle discipline. C'est une manière nouvelle d'aborder le processus, la réaction chimique. Et en fait, dans cette Bible, il y a les 12 principes de la chimie verte. Alors, pour info, Paul Anastase, à l'heure actuelle, il est conseiller environnement de Barack Obama à la Maison Blanche. Quand Obama cherchait s'est fait réélire, donc les Républicains en campagne électorale avaient dit si nous on revient au pouvoir, la première chose qu'on va faire, c'est fermer EPA. We will switch off the light. On va leur éteindre la lumière, ils avaient écrit les Républicains. Pourquoi? Parce que pour les Républicains, EPA est une agence anti-américaine. Elle édicte des règlements qui visent à limiter les industriels américains. Vous voyez la dimension que ça prend? On n'est plus dans la chimie, là, on est dans une dimension de politique. Alors les 12 principes de la chimie verte, je vous les montre, la table de la loi, mais on ne va pas s'y arrêter parce qu'on n'aura pas le temps. 12 principes, ma grand-mère qui n'était pas chimiste mais très bonne cuisinière aurait pu en écrire à peu près les trois quarts. C'est du bon sens. Ben, si j'ai le choix entre un produit toxique et un produit qui n'est pas toxique, je prendrai celui qui n'est pas toxique. Si je peux économiser l'énergie, si au lieu de travailler à 800 bars, 500 degrés, grâce à un catalyseur qu'a développé Joël, je fais la même réaction chimique à pression et température ambiante, vous imaginez le gain énorme au niveau énergétique. C'est tout ça. Alors moi, comme je suis un garçon donc feignant, je les ai transformés en quatre axes pour pouvoir les partager avec vous et avec mes collègues. Et ces quatre axes, je les ai conçus comme une réaction chimique. Quand on fait une réaction chimique, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une matière première. Et cette matière première, dans l'industrie chimique que vous connaissez, qu'on connaît du XXe siècle, c'est le pétrole. Les matières plastiques, donc tout ce qui va être industrie lourde, c'est le pétrole. Et on sait très bien que c'est loin d'être une ressource infinie, qu'il va falloir trouver autre chose. Et là arrive ce qu'on appelle des nouvelles matières premières, notamment, on va en parler, les produits biosourcés, c'est-à-dire les produits issus du végétal. Et puis, ce qu'on faisait au XXe siècle, c'est quand on prenait 100% d'une matière première pour l'industrie chimique, on en utilisait 20, 30% et le reste, on le balançait. Donc, il y a une notion d'économie d'atomes qui est de dire, si je prélève une matière première, je vais tout utiliser. Et une partie qui ira pour l'agroalimentaire, une partie qui ira pour l'énergie, une partie qui ira pour la pharmacie. Mais c'est ce qu'on appelle l'économie d'atomes. Hein, et les matières premières doivent se retrouver le plus largement possible dans le produit final. Il ne faut pas gaspiller la matière première. Et en plus, si on est malin, si on ne gaspille pas la matière première, forcément, on fabriquera moins de déchets. Alors, quand on a des matières premières en cuisine, hein, quand on a des matières premières, quand on veut faire une mayonnaise, on a des œufs pour faire une mayonnaise, mais il vous faut un solvant. Donc, en chimie, on a toujours utilisé des solvants. Alors, c'est facile, il n'y a que deux familles. Les solvants à base d'eau, les solvants à queue, donc pour les produits qui sont solubles dans l'eau, et les solvants organiques, comme les huiles, par exemple, de la mayonnaise, qui, eux, vont solubles. Alors, même si vous n'êtes pas chimiste, vous avez entendu parler des solvants organiques, le benzène, trichloréthylène, chloroforme, dichlorométhane. Rien que les noms, ce n'est pas très sympa. Et en fait, la vérité, c'est que même chimiquement, ce n'est pas très sympa du tout. Voilà, donc ce sont les deux types de solvants. Alors l'eau, ça va, c'est sympa. À part que l'eau, je vous l'ai dit, c'est une ressource. Donc si l'eau, au lieu de la boire, de la filer à boire aux gens qui ont soif, on fait de la chimie, c'est compliqué. Quand vous mangez 1 kg de bœuf, est-ce que vous avez une idée de la quantité d'eau qui a été nécessaire pour fabriquer 15 mètres cubes ? D'accord ? Parce que l'eau qu'on boit, c'est celle qui sert à laver la voiture, mais il y a la quantité les plus importantes, c'est dans l'agriculture, dans l'industrie. 1 kg de steak, c'est 15 mètres cubes. Le poulet, c'est plutôt autour du mètre cube d'eau. Un t-shirt, 150 litres d'eau. Donc tout ce qui va être chimie qui va ne plus utiliser d'eau, c'est un aspect fort. Et l'autre partie, la chimie organique, avec les solvants organiques, ben, c'est trouver des solvants propres, non toxiques, pour remplacer le benzène et le dichlorométhane. Et puis moi, si je prends mon œuf, si je mets ça dans de l'huile, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Parce que pour faire la réaction, il faut de l'énergie. Alors, l'huile de coude ou le batteur, comme moi. Donc, une réaction chimique, c'est de l'énergie. Et cette énergie, on l'a dit avec les catalyseurs de Joël, si vous pouvez faire des réactions chimiques à pression et température ambiante grâce à des catalyseurs, forcément, vous allez utiliser beaucoup moins d'énergie. Puis, quelle énergie vous allez utiliser ? Alors, si on peut utiliser de l'énergie bas carbone, bah, c'est plutôt pas mal. Alors, le dernier point, c'est que quand on a fait une mayonnaise, il nous reste des déchets. Il y a deux types de déchets. Il y a le blanc d'œuf et la coquille d'œuf. Ben, le blanc d'œuf, c'est typiquement un déchet recyclable. Puisque ma grand-mère, elle faisait les blancs en neige pour l'île flottante hein, du dessert. Et les coquilles d'œuf, c'est ce qu'on appelle un déchet ultime. Là, pour l'instant, on ne peut pas en faire grand-chose. Et moi, mon job, notamment au CEA, c'est de dire, quand j'ai des déchets, essayons de mettre le curseur le plus loin possible pour avoir beaucoup de déchets recyclables et ayons une quantité de déchets ultime la plus faible possible. Et comme disent mes amis québécois, Nous, je ne vous ferai pas l'accent parce que je le fais mal, nous, on ne parle plus de déchets dans nos labos. On parle de nouvelles matières premières. Je peux vous assurer que le fait de changer la syntaxe, déjà intellectuellement, ça fait beaucoup de choses. Alors par rapport à tout ça, parce que je vous dis, je suis très bavard, derrière ces quatre thèmes, je peux vous mettre beaucoup de sujets de recherche. Et tous les gens qui bossent en chimie verte en France, dans le monde, travaillent sur ces sujets-là. Je l'ai parlé, nouvelles matières premières, les matières premières végétales. Pendant longtemps, on a raffiné du pétrole. L'idée, c'est de raffiner des végétaux. On prend des végétaux et on va extraire différentes parties. Une partie pour la pharmacie, une partie pour l'agroalimentaire, une partie pour l'énergie, hein, les biocarburants. Donc, c'est ce qu'on appelle le bioraffinage. Je vous ai dit qu'il fallait avoir des outils capables d'aller chercher toutes les molécules possibles dans une matière première donnée. Les membranes, ce sont des tamis moléculaires. Ils ont des trous de l'ordre du milliardième, un nanomètre, hein, un milliardième de mètre. Donc vous imaginez que ces trous très petits permettent de séparer des molécules très très petites. Et donc grâce aux membranes, on peut aller séparer des molécules de matière première et donc là aussi les adresser à différentes applications. Les solvants propres, je les ai mis en rouge parce que je vais finir ma présentation là-dessus, parce que c'est un peu mon sujet. Les fuites supercritiques, l'eau sous pression, les liquides ioniques, les biosolvants. Donc ce sont toutes les alternatives qui sont développées depuis une quarantaine d'années pour ne plus utiliser de chloroforme, de dichlorométhane et autres. Utiliser au mieux l'énergie, forcément, si on peut utiliser de l'énergie renouvelable, si on peut gazéifier de la biomasse, transformer des déchets végétaux en énergie, si on peut stocker des batteries grâce aux batteries de l'énergie. Vous savez que l'enjeu des renouvelables, à l'heure actuelle, le problème des renouvelables, ce sont des énergies qui sont intermittentes. S'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de vent, ce n'est pas terrible. C'est ce qui oblige les Allemands, chaque fois qu'ils font un champ d'éolienne, à fabriquer à côté, en sauvegarde, une centrale thermique au charbon. On parle de la COP21, hein, si les Allemands balancent entre 6 et 8 fois plus de CO2 dans l'atmosphère que nous, ce n'est pas par hasard. Donc l'enjeu à l'heure actuelle est de dire, ayons des outils qui vont nous permettre, quand il y a du soleil et du vent, de récupérer de l'énergie, de la stocker pour la redistribuer quand on en aura besoin. Et donc le CEA travaille, hein, le commissaire à l'énergie atomique aux énergies alternatives. On travaille sur le nucléaire, mais on travaille sur le photovoltaïque, sur la gazéification, sur les piles à combustible, sur les batteries, sur les biocarburants de deuxième génération. Donc on a beaucoup de sujets de recherche dans ces domaines-là. Et enfin, en finale, produire des quantités minimales de déchets dans des formes adaptées. Là aussi, on travaille nous sur l'eau supercritique. Et on a une usine à Marcoule, dont j'ai été un des concepteurs, qui traite les déchets nucléaires contaminés par eau supercritique. Si on a le temps, je vous en dirai deux mots. Alors, si on rentre un petit peu dans le vif, je vais parler de science. Et je vais vous faire un hommage à Charb chaque fois que je peux. Je vais vous parler de science. Alors, mes professeurs, c'est complètement con ce que vous racontez. Oui, mais c'est scientifiquement con. Donc, je vais vous parler de science telle que nous, on l'a fait, telle que nous, on la développe, avec aussi l'idée de la transférer vers des industriels. Et vous verrez que la chimie verte, ce n'est pas une vue de l'esprit, puisqu'il y a déjà beaucoup d'applications. Pas assez à mon goût, je pense que Joël sera d'accord avec moi, mais on en a besoin. On a besoin de s'appuyer sur ce qui marche pour aller beaucoup plus loin. Alors, si on reprend les quatre éléments, chimie du végétal, par exemple. Vous voyez Arkema, qui est un gros de l'industrie chimique. Il vend depuis de nombreuses années le RILSAN. Le RILSAN qui est un polymère, matière plastique. Et c'est un biopolymère parce que le RILSAN, il est obtenu à partir d'huile de ricin. Et depuis quelques années, Arkema a beaucoup investi. Donc c'est la famille des polyphtalamides qui sont obtenus à partir de l'huile de ricin. Il est complètement renouvelable. Et avec, on fait plein de choses. On fait des câbles, on fait... Pour l'automobile et les transports, on peut faire des circuits d'essence de transfert de fluide. Le textile, on peut faire des brosses et des textiles haut de gamme. Donc, ils avaient déjà ça à Arkema depuis très longtemps, le RILSAN. Mais depuis une dizaine, quinzaine d'années, ils ont investi encore plus. Et ils sont même en train de réfléchir. Enfin, ils ont fait plus que réfléchir parce que c'est renouvelable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font produire l'huile de ricin en Amérique du Sud. Et il faut que quand ils bossent pour Arkema, ils aient aussi de quoi bouffer. Et donc, ils passent des contrats en garantissant des prix pour permettre aussi aux agriculteurs d'Amérique du Sud de pouvoir faire des cultures vivrées. Vous voyez, quand Arkema est rentré dans un concept et a été obligé, il ne l'a pas fait par philanthropie. Ils le font parce que c'est du renouvelable. Et donc, il faut rentrer dans une dimension politique. Alors, un autre gros de la chimie, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Solvay. Solvay, ils aiment bien le PVC. Le PVC, il est un petit peu partout, hein, vous savez, cette matière plastique, polyvinyl chloride. Et le PVC, qu'est-ce que c'est ? C'est du chlore et c'est de l'éthylène. Le chlore, c'est facile, on peut en récupérer à partir du NaCl, du sel. Et l'éthylène, c'est typiquement une matière première issue du pétrole. Et eux, ils disent, on peut fabriquer de l'éthylène à partir de sucre de canne, qui est une denrée renouvelable. Et on fait exactement la même chimie. Et cette chimie nous amène à pouvoir partir depuis le champ jusqu'à la transformation, à la création de produits, plastiques. Puisque du PVC avec des plastifiants, vous avez, par exemple, là, ils ont montré des exemples de mobilier pour les hôpitaux, des mobiliers qui doivent être robustes, lavables. Donc, ils développent le concept du bio-PVC. Alors, c'est vachement intéressant, mais c'est du sucre de canne. C'est quelque chose qui sert à manger aussi, à la base. Donc là aussi, il va se poser d'autres problèmes. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Alors, là où je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps pour vous faire réfléchir un petit peu sur les enjeux de la chimie verte, c'est sur les nouveaux solvants. Et depuis, effectivement, une vingtaine d'années, 25 ans maintenant, je travaille sur les fluides supercritiques, donc CO2 supercritique et eau supercritique. Alors, déjà, le concept est un peu barbare. Supercritique, ça fait pas... Nous, ce qu'on connaît, c'est ça, c'est l'eau. L'eau, c'est un solvant qu'on connaît. Et je vais vous montrer aussi la chimie telle qu'on l'a fait dans les laboratoires de Saclay, dans mon département. Et je vais vous montrer une expérience de chimie très, très facile. On a de l'eau, des molécules d'eau, H2O, ça, je pense que vous... Ça vous parle un petit peu. Et on va mettre un acide iodhydrique, HI, deux atomes, iode et hydrogène. Et on va mettre ça dans de l'eau et on va voir ce qui se passe. Ce qui va se passer, c'est que HI va se dissocier, va se couper en deux, et l'hydrogène de HI va rejoindre une molécule d'eau et va fabriquer le fameux ion hydronium, H3O+, J'allais transpirer là-dessus pour l'imaginer quand j'étais étudiant. Et vous allez voir que maintenant, grâce à l'informatique, on peut directement modéliser. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qui a été fait pour vous, pour le grand public. C'est typiquement une modélisation qui a été faite pour comprendre comment la solubilisation se fait. I, H, HI. Donc l'hydrogène est un petit peu plus gros que l'hydrogène des molécules d'eau. Pour pouvoir le pister dans l'ensemble de la modélisation. Et nous, on croyait que cet hydrogène-là, il allait se mettre avec cette molécule d'eau, puis il allait sauter. Et en fait, on a découvert que cet hydrogène-là, il va rester, et c'est un autre hydrogène qui va lui devenir baladeur. Alors peut-être que ça ne vous parle pas trop, ce qui est normal, mais nous, ce n'était pas du tout ce qu'on avait imaginé. Et donc, la chimie, à l'heure actuelle, dans les laboratoires, c'est aussi ça. Alors ça, je peux vous dire que quand je présente ça dans les écoles, je fais un malheur. Hein, parce que c'est mieux que la Game Boy, c'est mieux que la PS4, hein, et c'est mieux que la Xbox. Et c'est effectivement parce que là, vous avez des énormes ordinateurs qui sont mobilisés pour simuler en temps réel. Alors, vous voyez que ces molécules d'eau, il y a des pointillés, parce qu'en fait, les molécules d'eau là-dedans, les molécules d'eau, elles ne sont pas n'importe comment les unes par rapport aux autres. Elles vont s'orienter. Elles vont s'orienter avec ce qu'on appelle les liaisons hydrogènes. Et ce que vous voyez là, ce sont les liaisons hydrogènes, des liaisons faibles, qui font que les molécules d'eau, elles ne se mettent pas n'importe comment. Donc ça, c'est de la chimie telle qu'on l'a fait à l'heure actuelle. Et si je reste sur l'eau, ça me permet de vous dire que dans la nature, l'eau, comme tous les corps purs, existe sous plusieurs formes. Et vous les connaissez, ces formes pour l'eau. En dessous de 0 degré à pression ambiante, l'eau est solide, c'est de la glace. Entre 0 degré et 100 degrés à pression ambiante, l'eau est liquide. Et tant mieux, parce que c'est grâce à ça qu'il y a de la vie sur Terre. Et en dessus de 100 degrés à pression atmosphérique, c'est ce qui sort de la locomotive, l'eau est sous forme de vapeur. Donc on connaît bien ce qu'on appelle les trois états fondamentaux de la matière. Solide, liquide, gazeux. On l'a tous expérimenté dans notre vie, même si on n'est pas chimiste. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'à un certain niveau de pression et température, donc une température critique et une pression critique, au-delà de cette pression et de cette température, l'eau n'est plus liquide, elle n'est plus gazeuse, elle est dite supercritique. Ah. Et en fait, ça existe à la surface de la planète. Alors pour vous aider, je vais vous dire que le point critique de l'eau, c'est 221 bars, 374 degrés Celsius. C'est chaud et c'est beaucoup en pression. Et en fait, grâce au Nautile de l'Ifremer, dans les fosses abyssales à 7000 mètres, vous avez 700 bars de pression et vous avez une activité volcanique sous-marine. Dans les fameuses licornes noires que le Nautile a ramenées, que vous voyez ici, les panaches, en fait, ce sont des panaches d'eau supercritique. Et des chercheurs japonais ont même théorisé le fait que la vie était née, les premières molécules complexes se sont associées dans ces geysers d'eau supercritique. Donc, c'est quelque chose qui existe. Et moi, ce qui m'intéresse, alors, un peu d'histoire, oui, juste pour votre culture personnelle, c'est un Français, le baron Cagnard de la Tour, qui, en 1822, a décrit le premier, la phase supercritique. Et il a fait ça grâce à une manip où il avait un canon d'infanterie, quatre silex et un roseau. Vous avez une heure, et après, à l'apéro, on en parlera, vous me direz comment il a fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le CO2. Pourquoi ? CO2, vous savez que dans une bouteille de Perrier, c'est du CO2 gazeux. Dans les extincteurs, vous pouvez avoir de la neige carbonique, donc du CO2 solide. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour le CO2, le point critique, il est à 31 degrés et 73 bars. Là, c'est déjà plus sympa. 31 degrés, c'est une température extrêmement basse pour des chimistes. 73 bars, ça peut paraître beaucoup. Est-ce que vous avez une idée de la pression d'une bouteille de Coca, une bouteille de champagne ? Ça vous parle ou pas ? Combien ? Pas comme ça. Il y a de la pression, vous êtes d'accord avec moi, non ? Vous avez Coca, vous avez champagne, ouais. Une idée de la pression ? On ne boit pas à Poitiers ou... Ah, du rouge, ce qu'on appelle les vins tranquilles. Il y a trop de pression dans les bars, c'est ça ? C'est 5 bars. 5 bars. 5 bars. Si vous avez un moteur Common Rail dans votre véhicule, moteur HDI Common Rail, à un mètre de votre volant, vous avez une injection à 2000 bars. Alors, sur des petits volumes, mais c'est 2000 bars. Donc, la température, on connaît. La pression, on n'a pas la complicité qu'on a avec la température et la pression. 73 bars, c'est pas grand-chose. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le CO2, bon, je n'ai pas le temps, on va passer directement, c'est un solvant. C'est-à-dire que le CO2, quand il devient supercritique, donc au-delà de 31 degrés 70 bars, il n'est plus liquide, il n'est plus gazeux, il devient un solvant. Et c'est un solvant organique. Il a un frère jumeau en chimie qui s'appelle l'hexane. Donc ce qu'on peut extraire avec de l'hexane, on peut l'extraire avec le CO2. Alors, solvant apolaire, ça veut dire qu'il va avoir beaucoup d'affection pour les molécules dites apolaires. Les huiles, les corps gras, les graisses, les arômes, ce qu'on appelle les huiles essentielles. Par contre, tout ce qui est très polaire, donc tout ce qui est soluble dans l'eau, ben ça, il n'aime pas, ce qui est normal. Alors le CO2, c'est intéressant parce que c'est stable, c'est ininflammable, c'est incolore, inodore, c'est pas très cher. Il y en a un peu trop dans l'environnement, d'ailleurs. Donc si on peut l'utiliser dans les usines, c'est encore mieux. Et en jouant avec la pression, on peut jouer entre du CO2 liquide, du CO2 supercritique, du CO2 gazeux. Alors ça, ça ne vous parle pas. Pourtant, ça, c'est magique. Pourquoi ? C'est quand on veut faire de l'extraction, quand vous voulez extraire. Quand vous faites du café le matin avec une cafetière, vous savez, les cafetières à filtre, vous faites ce qu'on appelle une lixiviation. C'est-à-dire que vous allez faire passer de l'eau chaude sur une face solide. Cette eau chaude, qui est le solvant, va extraire les molécules hydrosolubles, à savoir la caféine, les chlorophénols et les pigments. Et ce que vous allez récupérer dans votre cafetière, c'est un résidu d'extraction à l'eau chaude. Jusqu'ici, c'est bon ? Maintenant, si je vous dis ce que vous avez extrait dans la cafetière, ben, j'aimerais que vous me sépariez l'eau de la caféine, du chlorophénol et des colorants. Ça, ça paraît beaucoup moins facile. Hein ? Et c'est là où le CO2 supercritique, c'est assez magique. Pourquoi ? C'est qu'en fait, on a une cocotte minute, ce qu'on appelle un autoclave. C'est-à-dire une installation qui tient à la pression. On va mettre dedans un produit à extraire. CO2 gazeux, on le chauffe, on le comprime, on le chauffe. Bleu marine, il est super critique. Il rentre dans la cocotte minute. Et là, c'est un solvant, il va extraire les molécules qui sont solubles dans le CO2. Et vous voyez que juste après l'autoclave, j'ai une vanne. C'est-à-dire que je vais faire chuter la pression. Et si vous avez suivi, si je chute la pression, mon CO2 qui était super critique, il redevient gazeux. Et quand il est gazeux, il perd totalement son pouvoir solvant. Donc ce qui était soluble ne l'est plus et va naturellement précipiter dans ce séparateur. Et mon CO2 gazeux, qu'est-ce que je fais ? Je vais le recycler. Donc ce qui est intéressant dans l'extraction par CO2 supercritique, c'est que l'opération finale de séparation de l'extrait du solvant est facile, pas cher, et surtout, je peux vous garantir que à la fois dans l'extrait et à la fois dans la matière que j'ai traitée, il n'y a pas de traces résiduelles de solvant. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, le CO2 supercritique, il a été utilisé au départ, il y a 40 ans, par des industriels pour fabriquer du café décaféiné. Il y a 40 ans, même un petit peu plus, 45 ans, est-ce que vous savez avec quoi on extrayait la caféine ? Chloroforme, dichlorométhane et benzène par endroit. Ce qui fait que dans le café décaféiné, il y avait des traces résiduelles de solvants et que les gens qui buvaient du café décaféiné, notamment les gentilles mamies qui buvaient du café décaféiné parce que le soir, ça m'énerve moins, je peux mieux dormir, elles ont commencé à présenter des cirrhoses du foie et des affections des reins liées à la présence de solvants. Et donc là, General Food, Maxwell, le café Maxwell House, parce que le café, c'est de gros dans le monde, ça c'est facile. Le premier, mesdames, vous le connaissez, c'est George Clooney, Nestlé, et l'autre, c'est Maxwell, General Food, Maxwell House. À eux deux, ils se partagent 89% du marché du café décaféiné. Donc Maxwell House, en 70, achète tous les brevets supercritiques allemands sur la décaféination et fabrique la première usine. Et depuis 40 ans, le café Maxwell est obtenu par CO2 supercritique. Et Nestlé était très embêté, parce qu'arrivant en second, s'ils utilisaient le CO2 supercritique, ils devaient payer à chaque fois General Food. Et donc, ils ont développé un procédé moins efficace à l'eau sous pression, mais qui leur a permis de fabriquer du café décaféiné sans qu'il y ait de traces résiduelles. Donc, en fait, pourquoi c'est intéressant, le café ? Le café, c'est, je prends du CO2, vous le savez, je chauffe, je mets dans un autoclave, j'enlève la caféine, et ce qui reste, c'est du café décaféiné. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, si je vous dis, le café, c'est 20 euros le kilo. Le café décaféiné que vous allez obtenir, c'est 35 euros le kilo. Et puis le déchet, qu'est-ce que c'est le déchet ? Le déchet, c'est de la caféine. Et rappelez-vous, après détente, je vais récupérer ici de la caféine ultra pure. Et là, j'ai deux gros clients pour la caféine. Coca-Cola et Red Bull. Vous savez qu'à Red Bull, même, ils se tirent la bourre pour avoir accès à la caféine. Et l'autre client, c'est l'industrie pharmaceutique. C'est un tonique cardiaque naturel. Vous l'avez dans des tonnes. En ce moment, les pharmacies allaient voir les médicaments. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mal à la gorge. J'y suis allé récemment. Il y a de la caféine à chaque fois. Et ça se vend entre 80 et 100 euros le kilo. Vous imaginez un procédé où le déchet vaut plus cher ? Vous comprenez pourquoi, il y a 40 ans, les gens ne se sont pas posés de questions sur le CO2 supercritique. Ils disent, on y va. Et donc, il y a des usines qui sont colossales. Voilà la taille de l'usine, une des premiers réacteurs, parce qu'ils ont mis du temps à communiquer. Ça, c'est la taille du gars. D'accord ? Ça, c'est la taille de la cocotte minute. Donc, ils sont à 80 000 tonnes par an. Lavazza, en Italie, c'est l'usine Lavazza pour le décaféiné, donc c'est 10 000 tonnes par an. Donc, vous voyez que la chimie verte, je ne vous parle pas de curiosité de laboratoire. Je vous parle de gens qui ont investi, et vous utilisez des extraits CO2 sans le savoir. Alors, l'autre application, ça a été la seconde, on va dire, c'est les produits naturels. Là, vous avez plein d'usines, notamment en Europe, mais dans le monde entier, pour extraire tout ça, la vanille, le poivre, enfin, tout ce qui est produit pour la cosmétique, les polyphénols, les antioxydants, tout ce que vous allez retrouver dans les formulations cosmétiques. À l'heure actuelle, vous avez des quantités colossales d'extraits CO2 chez les grands groupes, L'Oréal, ils utilisent ces extraits. Parce que ça s'extrait très très bien, et vous l'avez compris, sans trace résiduelle de solvant. Ça, c'est dans le monde. Alors, Je vais finir avec ça. C'est une application que je connais un peu, parce que j'en suis à l'origine. C'est l'application qui me vaut le surnom, enfin l'appellation enviée de sauveur de l'humanité alcoolique, de par mes amis. C'est pas toute l'humanité, mais on est nombreux quand même, alcooliques. Et en fait, j'ai travaillé il y a de nombreuses années, et je continue encore. Le coup de fil tout à l'heure qui sonnait, c'était le patron de la boîte qui m'appelait, avec le numéro 2 mondial des bouchons en Liège. Et en fait, dans le Liège, vous le savez peut-être, il y a une molécule naturelle qui s'appelle le trichloroanisole, qui est responsable du goût de bouchon. Cette molécule, quand elle diffuse dans le vin, c'est elle qui donne au vin ce fameux goût bouchonné. Alors industriellement, les bouteilles bouchonnées, c'est 3%, entre 3 et 7%. Vous allez me dire, c'est pas énorme, et vous avez raison. À part que si je vous dis, c'est un Haut-Brillant 82, que vous avez payé 5000 euros, là, ça énerve un peu plus. Et donc, cette entreprise m'a dit, monsieur Sarraz, votre truc super critique, là, j'y comprends rien et je m'en fous. Mais est-ce que vous pourriez aller extraire le trichloranisole du Liège afin que moi, je puisse être le premier à vendre des bouchons garantis sans goût de bouchon. Alors, ce qui est embêtant, c'est que le trichloranisole, à 10 nanogrammes par gramme, c'est-à-dire à 10 milliardièmes de grammes par gramme de liège, vous le sentez. Et sachez que vous, mesdemoiselles et mesdames, vous êtes les mieux armés pour le détecter, parce que vous avez un nez chromatographique par rapport à nous. Donc au restaurant, la prochaine fois, demandez à tester le vin, parce que c'est vous qui êtes les plus armés pour détecter le goût de bouchon. À 5 nanogrammes par gramme, les amateurs, les œnologues, ils détectent. À 1 nanogramme par gramme, ça je l'ai vu avec des œnologues parmi les 10 meilleurs au monde, ils vous disent, le vin, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc. Et dans nous, notre cahier des charges, c'était quelle que soit la quantité initiale de trichloranisole, il faut leur amener une valeur résiduelle inférieure à 0,1 nanogramme par gramme. Pourquoi ? Parce qu'en dessous, on ne s'est pas mesuré. C'était la limite de l'analyse chimique. Et puis surtout, c'était, mais monsieur Sarraz, hein, vous enlevez que le CCR, parce que tout le reste, on en a besoin. Les cires, les molécules qui servent à faire l'étanchéité, hein, les cires dans le liège, il ne faut surtout pas y toucher. Donc on a mis 7 ans pour développer ce procédé, ce brevet, qui a conduit à la création d'une usine et d'une société qui s'appelle Diam, parce qu'on a voulu faire le diamant des bouchons, hein, le bouchon Diam. Première usine en 2006, 800 millions de bouchons. Diam 2, donc 1,4 milliard de bouchons. Et cette année, la troisième unité a été installée en France. Alors, les deux premières sont à Corches de Mérida, à la frontière entre l'Espagne et le Portugal, là où il y a les chênes de Liège. Donc, première installation, maintenant vous connaissez les cocottes minutes, première installation, 3 fois 8 mètres cubes. 8 mètres cubes, c'est pas mal. Deuxième installation, 3 fois 11 mètres cubes. Et la dernière, celle qui est installée à Serré, à côté de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, en 2015, c'est 3 fois 18 mètres cubes. C'est une des plus grosses au monde. Le Diam, c'est 151 millions d'euros de chiffre d'affaires par an sur ce brevet. C'est le brevet qui rapporte le plus d'argent au CEA après les brevets nucléaires. Et moi, vous imaginez, d'ailleurs, mon ami Fournel qui vient d'arriver a aussi trempé là-dedans, dans le bouchon. Tu arrives au bon moment. Toujours, dès qu'il y a du pinard, on peut compter sur toi. Donc, vous imaginez un centre nucléaire à Pierrelatte, quand on parlait des travaux sur le bouchon en Liège, mais ils étaient tous morts de rien. Nos collègues disaient, mais allez, tiens, fais-nous marrer, Stéphane, parle-nous de où t'en es où sur les bouchons. Au premier million d'euros de redevance, mon directeur m'a dit, tu sais, Stéphane, on y a toujours cru. Et c'est là où j'ai compris qu'au CEA, la crédibilité commençait au premier million d'euros. Donc ce brevet a ramené déjà 10 millions d'euros de redevances et on espère en voir entre 18 et 20 millions d'euros sur un procédé de chimie verte ultra pure. Et ce n'était pas un grand groupe, ce n'était pas L'Oréal, ce n'était pas Arkema, c'était une petite boîte qui n'avait pas d'autre possibilité pour survivre que d'être capable de produire. Alors, les derniers diams que j'ai vus, ils ont des diams 35. Le bouchon est garanti 35 ans. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. Les winemakers de la Napa Valley en Californie, ils achètent ça comme des M&M's. Ils adorent ça. Vous imaginez mon vin, j'ai mis un bouchon à 35 ans, c'est énorme. Donc, à l'heure actuelle, il m'appelait parce qu'on est beaucoup attaqué en contrefaçon. Et donc, on a du mal à sauvegarder ce brevet, mais on va s'y employer. Voilà, je vais terminer là. Je vais conclure là. Ah oui, quand même, un truc important, parce que je vous ai parlé des t-shirts tout à l'heure. Alors, l'extraction, vous comprenez, mais vous pouvez aussi comprendre l'opération MMA qu'on appelle l'imprégnation. Quand on fait du cuir, le tannage au chrome, quand on fait de la coloration de tissu, on fait tremper des tissus dans une solution, souvent de l'eau. Quand on fait du cuir, une tonne de peau, 15 tonnes d'effluents chromés. Faire un t-shirt, c'est 150 litres d'eau. Un t-shirt. Nike a développé un procédé super critique, le Nike Color Dry, qui est à Taïwan. Donc, j'ai visité cette usine, j'y étais invité il y a un an. Donc, vous avez un autoclave qui est horizontal, et vous avez du tissu qui rentre. Et le CO2 se charge, on solubilise des colorants dans le CO2, et le CO2 rentre dans l'autoclave. Et comme c'est à la fois un gaz, à la fois un liquide, il va diffuser dans le ballot de tissu et il va le colorer. Donc, j'ai assisté à la manip. C'est Nike, hein, c'est un choix à l'américaine. Hein, et à la fin de la manip, on est descendu, ils ont ouvert l'autoclave, ils m'ont dit allez-y. Et donc j'ai mis la main, le truc était complètement coloré, homogène, c'était magique. Nike communique là-dessus en disant notre usine de Taïwan, elle permet de sauvegarder 280 000 piscines olympiques par an, une usine. Et ils ont créé une joint venture avec IKEA. C'est très récent, parce que IKEA va être un des premiers à avoir de l'ameublement, du tissu d'ameublement, teinté avec ces procédés-là, c'est-à-dire sans utiliser d'eau. Donc allez sur... si vous faites du sport, par exemple, l'équipe de foot hollandaise, l'équipe de marathon du Kenya, ils ont des maillots qui ont été traités de cette manière-là, et ils font beaucoup de pubs là-dessus, et vous pouvez acheter directement ces maillots maintenant, ils sont disponibles un peu partout. Alors, je vais m'arrêter là en faisant une conclusion pour essayer d'ouvrir la discussion. Donc, la dernière équation, c'est 5 enjeux majeurs, on les a évoqués. Hein. Donc, la nourriture, la santé, l'eau potable, l'énergie, et puis sauvegarder la planète. 3 objectifs d'impact, limiter l'impact sur les opérateurs, sur les consommateurs et sur l'environnement. 4 axes de recherche, matières premières, solvants, énergie, déchets, recyclage, valorisation et inertage. Ça, c'est une équation qui tombe plutôt bien parce qu'on arrive facilement à 12. Alors, il y a un gars dont je vous ai parlé qui s'appelle Paul Anastase, que tu avais fait venir d'ailleurs, je crois, à La Rochelle. Moi, j'étais avec lui en 2009 en Chine. On était invité à un congrès et on parlait de chimie verte. Et Anastase, tu l'as déjà vu celui-là ou pas ? Anastase présentait ça en disant il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que la chimie verte, c'est une nouvelle manière d'appréhender la chimie. Et pour illustrer, vous avez une sortie de pub, je crois que c'est en Irlande ou je ne sais pas où, un peu compliqué parce que le gars il avait un peu paumé sa bagnole, mais il l'a retrouvée et il est allé donc demander à quelqu'un de lui sortir la voiture. Et tout va bien, si ce n'est qu'il y a un petit souci avec le camion. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait venir notre camion. Et plus gros, parce qu'on n'est pas con non plus. Hein. Oui, c'est vrai, je suis enregistré, il ne faut pas que je dise de gros mots. Mais voilà, d'accord. Et puis en plus, comme on est un peu malin, on commence d'abord à sortir la voiture, et après, on s'occupe du camion. Et là, et qu'est-ce qu'on a fait ? Allez, t'es allé chercher notre camion. Et ça, c'est Albert Einstein qui a le mieux synthétisé ça. Il a dit, la folie, c'est de se comporter toujours de la même manière, en espérant à chaque fois un résultat différent. Est-ce que vous pensez que si on continue à faire de la chimie avec du pétrole, sans se soucier de l'eau, sans se soucier des déchets, est-ce que vous pensez qu'au XXIe siècle, on aura un résultat différent du XXe ? Bien sûr que non. Donc c'est ça l'illustration. L'illustration, c'est qu'on est condamné à changer, parce que de toute façon, ce qu'on a fait, ça ne marche pas. Et donc, en partant de ce congrès en 2009, à Beijing, je prends l'avion, voyageur un petit peu prévoyant, je m'arrête. Et je vois un urinoir un peu particulier marqué. Cet urinoir sans eau, est en respect des règlements chinois, permet de sauver 150 000 litres par an. Ah, les Chinois, les pollueurs, tiens, c'est marrant quand même. Alors, cette photo, en 2009, bah, je l'ai, bien sûr, je l'ai pris. Et puis, avec moi, elle a beaucoup voyagé. Alors, au Québec, il me dit, mais ça, mais nous, on a ça à la fac. Ah, d'accord, parce que nous, en France, ça fait un mois que ça a changé. Je ne crois pas qu'on ait ça à la fac. D'accord ? Dans les pays du nord de l'Europe, dans les entreprises, ils ont ce genre de choses. Il a fallu attendre ce que les hommes redoutent le plus, le samedi après-midi, IKEA. Et IKEA à Montpellier, donc j'accompagne ma compagne, et je m'arrête. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois ça en 2013. Je vois IKEA, rappelez-vous, les mecs qui ont fait la joint venture avec Nike. Voilà, nous attachons de l'importance à notre environnement. Cette urinoir épargne 100 000 litres d'eau potable par an. Okay, il a fallu 4 ans pour ça arriver. Mais les choses arrivent. Alors vous allez penser que j'ai une tendance scatologique. Peut-être que c'est vrai. En 2009, parce que je fais des cours au Japon, dans mon hôtel, je vois ça. C'est génial, ça. Ça, ce sont des toilettes. Et chaque fois qu'on tire la chasse, on se lave les mains avec l'eau de la prochaine chasse d'eau. Et à chaque fois, on va économiser ce que ma maman m'a obligé à faire depuis tout petit. Aller me laver les mains après. Effectivement, on n'a pas besoin que la chasse d'eau soit de l'eau potable. Hein. Ça, c'est quelque chose de complètement lunaire. Alors, depuis 2009, j'ai pris un de ça. Mais c'est génial, ça. Mais pourquoi ? Ben, pourquoi ? Ben, parce qu'il faut attendre 5 ans. Et là, maintenant, vous avez différentes sociétés. Et même à Poitiers, vous pouvez commander chez Casto, chez Leroy Merlin, ces systèmes-là. Tout ça pour dire, je dis que l'eau, c'est un point important pour moi. C'est-à-dire, c'est le sujet de mon prochain bouquin. On est acteur aussi de ça. On est acteur de la chimie verte. On est acteur, et les procédés qu'il y a dedans, il y a de la chimie, hein, faut pas rêver. Hein. Donc c'est à notre portée. C'est à notre portée. Et c'est important qu'on l'intègre en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur. Et je pense qu'on pourra en discuter. Mais voilà, il a fallu 4-5 ans pour que ça arrive jusqu'à nous. Et tant mieux. Et je vais terminer là. Alors la COP21, c'est maintenant. Hein. Vous savez qu'on est le pays qui accueillons la conférence sur le climat, et on est le seul pays occidental où l'Académie des sciences n'a pas eu une position unanime sur le fait que le climat est modifié par l'activité humaine. Je laisse ça à votre réflexion. Donc il y a les climato-sceptiques, et moi j'ai la preuve irréfutable, je pense que vous la connaissez aussi, du changement climatique, je ne me lasse pas de la présenter. Il suffisait de regarder l'évolution des sous-vêtements féminins depuis le XVIIIe siècle, pour à la fois prédire le changement climatique et prédire l'arrivée des nanosciences. Voilà. Donc la science, c'est la fête de la science, c'est la semaine de la science, ce n'est à la base qu'une science d'observation. Et grâce à ça, si vous gardez ça en tête, je pense que vous ferez des bons scientifiques. Voilà. Merci de votre attention.
Merci de cet exposé qui est bien construit et brillant, et avec une conclusion.
Tu es chercheur toi aussi. Hein, voilà, je crois qu'on a le temps pour des questions peut-être, pour débattre. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Hein. Vous n'êtes pas d'accord sur tout.
N'hésitez pas. Toujours la première.
Ouais, on va passer à la seconde directement.
Oui, je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur le... cette histoire du camion, là, puis on reprend un camion plus gros, etc.
Ouais.
Il y a quelque chose dans la conférence qui m'a fait penser que c'était un peu la même démarche. C'est quand on fait du PVC avec de l'éthylène, on dit je ne vais plus utiliser de pétrole, je vais aller chercher du sucre, avec le sucre je vais faire de l'éthanol, l'éthanol je vais le transformer en éthylène et je vais faire du PVC. En réalité, je crois que... Alors, je connais de grandes firmes en France qui se sont lancées là-dedans à faire des composés oléfiniques par substitution de produits qui sont des produits naturels. Je pense que la grosse erreur qu'on fait quand on a cette démarche-là, c'est non pas de chercher une fonction, de chercher une propriété, mais c'est de chercher à refaire ce qu'on a fait par d'autres procédés. Ouais. Alors, est-ce que c'est pour des questions d'économie, parce qu'il y a des immenses investissements permettant de faire du PVC à partir d'éthylène, et donc on a peut-être intérêt à partir de l'éthanol. Mais si on fait les analyses de cycle de vie, c'est immoral, ce truc. Et clairement. Donc, il faut, je crois, prêcher pour dire, chercher la fonction, chercher la propriété, mais ne cherchez pas à copier ce que la chimie, ce que le pétrole nous a apporté. Bien sûr, bon, c'était une belle chimie, elle était intéressante aussi, mais aujourd'hui, ça doit être autre chose.
Elle est datée. Alors, vous avez entièrement raison. J'ajouterai à votre réflexion les biocarburants de première génération.
Bien sûr.
Bah oui. Quand on fait pousser du colza pour faire de l'essence, c'est exactement la même problématique. Et je voulais, enfin, moi, je l'ai déjà dit à plusieurs endroits, entre faire rouler une voiture ou faire manger des gens, je pense, c'est même pas une question. Enfin, forcément, ça marche pas. Ça, c'est la démonstration de ce que vous venez de dire, c'est que si on ne fait que reproduire en cherchant juste la nouvelle source pour fabriquer la même molécule, ça marchera pas. Et votre commentaire aussi m'amène à dire une chose aussi qui est très particulière en France. La France est le seul pays au monde où il y a une confusion entre chimie verte et chimie du végétal. Et j'ai un début d'explication, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais le premier livre qui s'appelle « La chimie verte » en France et en français a été écrit par Paul Colonna et ses collaborateurs de l'INRA. Et donc le premier bouquin « Chimie verte », c'est un bouquin de chimie du végétal. Et il était ambitieux et visionnaire, ce bouquin. Mais vous avez vu mes quatre axes ? Moi, la chimie du végétal, c'est le premier axe, hein, c'est tout. Je ne minimise pas. Hein, mais, et en France, et j'espère que maintenant, vous serez avec moi des ardents défenseurs de la chimie verte, en disant, bon, c'est bien la chimie végétale, mais il n'y a pas que ça. Quoi. C'est la chimie sans eau, c'est la chimie en recyclant, c'est la chimie à basse énergie avec les catalyseurs, c'est la chimie analytique qui permet de détecter en temps réel des pollutions. Vous avez entièrement raison. Votre commentaire, il est très pertinent puisqu'il met en évidence le fait qu'on ne peut pas, on ne doit pas, la chimie n'est pas une reproduction de la chimie. C'est une nouvelle façon de repenser la chimie, le processus chimique. Moi, c'est ce que j'apprends à mes élèves, à mes étudiants, à mes thésards dans les laboratoires. C'est tout ce qu'on a appris, nous, les vieux du siècle dernier. C'est fini, ça. C'est pas... Moi, j'ai été formé à une école d'ingénieur. On m'a dit, bon, toi, tu vas être ingénieur. Donc, ton actionnaire majoritaire, ce qu'il veut, c'est du rendement de réaction. Il faut que ta réaction chimique, elle dépote. Donc tu te démerdes comme tu veux, mais il faut que ton rendement soit bon. Sans parler de matière. Maintenant, un ingénieur chimiste, qu'est-ce qu'on lui dit ? Le processus, oh, ça sera quelle matière première ? Avec quel solvant ? Tu auras besoin de quoi comme énergie ? Puis ton déchet, là, on peut en recycler ou il va nous coûter cher ton déchet ? C'est ça la nouvelle façon d'appréhender là, dans les écoles de chimie ou à l'université. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'imagine que c'est comme ça qu'on devrait le faire. Voilà. Et c'est pas toujours fait comme ça, mais bon, voilà, on est quelques-uns et on essaye de, on y croit. Et c'est pour répondre à votre question, c'est que si on ne fait que transposer le problème, on ne le réglera pas. Voilà. Question, commentaire ? Personne boit du café décaféiné ? Si, du coca ?
Dans le procès des diamants, là, le gaz carbonique, il le recycle à combien ? C'est-à-dire, quelles sont les fuites ?
Alors, et là, on va parler précisément, parce que j'ai le plaisir d'avoir mon ami Bruno Fournel qui est présent, qui est un petit gars du Sud comme moi, qui a émigré par amour à Poitiers, qui vient de convoler en juste noce. Donc Bruno et moi, on a fait notre thèse ensemble. Il a été comme moi responsable du laboratoire fusiperkinétique et membrane. Donc tu as trempé aussi dans le projet. Dans une installation industrielle, le CO2 est recyclé à 97%. Il y a 3% de pertes. Les 3% de pertes sont liées à l'ouverture de l'autoclave. C'est-à-dire, à un moment donné, on revient à la pression atmosphérique, rappelez-vous. Il faut l'ouvrir pour enlever la charge et en mettre une nouvelle. C'est là où on perd un peu. Et justement, donc vous l'avez compris, moi j'ai accompagné, on a accompagné avec Bruno un certain nombre d'industriels vers le CO2 supercritique. Et ce qui est génial, c'est au moment où nous, on doit les freiner. Parce que quand ils ont commencé à jouer à ça, ils en veulent mettre partout. Et nous, on dit, ah non, mais là vous ne pourrez pas. Et quand j'ai visité l'usine à Corchès de Mérida, il y a un an, un peu moins d'un an, j'ai dit, et l'extrait ? Alors l'extrait, vous imaginez, hein, du concentré, de chez concentré, ultra concentré, de trichloroanisole. Si vous mettez la tête au-dessus du fût, ça vous fait bizarre. Je dis, bon, de toute façon, ce n'est pas un gros volume. Mais non, on le vend. Je dis, quoi ? Il dit, oui, on le vend entre 200 et 300 euros le litre. Là, je dis, oui, effectivement, je suis un peu assis. Ben oui, parce qu'avec les concepts de chimie verte, on s'est dit, bon, OK, ce n'est pas beaucoup, mais peut-être qu'il y a des trucs intéressants dedans. Et ils ont travaillé, ils ont trouvé un antioxydant et une boîte de cosmétiques leur achète l'extrait de trichloroanisole pour le mettre dans des formulations, mesdames, de crème, crème de jour. Alors, bien sûr, il y a une étape de désodorisation. Heureusement, sinon, ouais, si vous sentez le bouchon, c'est pas super cool pour nous. Mais donc, c'est-à-dire que leur déchet n'est même plus un déchet. C'est voilà, c'est extraordinaire ça. Et c'est ça en fait, voilà, c'est ça le concept de la chimie verte, c'est ouais. De dire, il n'y a pas de solution. C'est à nous de découvrir, d'inventer de nouvelles solutions. Voilà. Donc, et effectivement, le CO2, il y a très peu de pertes. Ouais.
Autre. Oui.
J'en ai une petite là. Mais alors là, c'est très chimique quand même. C'est tout à l'heure, tu as montré un schéma là, dans des molécules d'eau. Tout ça, c'était animé. Et il y a l'échange d'un proton sur une molécule d'eau. Ouais. Et tu as dit, ce proton, ensuite, il n'aura pas le même comportement que les autres. Et donc, ça m'a fait penser à un truc, parce que je suis un chimiste d'un certain âge, mais on sait que nos collègues russes, pendant presque un siècle, ouais, se sont tous focalisés sur la mémoire de l'eau.
Oui.
Et est-ce que ce truc-là, ça a quelque chose à voir ?
À ma connaissance, non. Ça n'a rien à voir.
Mais ça veut dire quoi, ce proton qui ne peut plus s'échanger ?
Ben, en fait, ça veut dire que statistiquement, c'est pas qu'il ne peut plus s'échanger. Ça veut dire que nous...
Il ne joue plus le même rôle que les autres.
Oui, oui.
Mais ça veut dire qu'il a gardé la mémoire de quelque chose ?
Ça veut dire que statistiquement, il devient équivalent aux autres.
Ah, d'accord.
C'est ça que ça veut dire.
Ah oui, bah qu'il soit... Bah, oui, alors, ah oui, non, je n'avais pas compris ça.
Alors que nous, justement, du fait de la mémoire, du fait de... On s'était dit, mais... Ah ouais, on pensait que c'est que l'H3O+, le H supplémentaire sur la molécule d'eau, c'était celui de l'acide iodhydrique qui devait se balader un petit peu partout. Mmh. Ben en fait, non.
Non, bien sûr. Oui, bien.
Alors, puisqu'on est entre chimistes, il y a un gars qui s'appelle Zundel, qui est un chimiste allemand complètement allumé, qui avait, lui, théoriquement, imaginé il y a 150 ans un cation, le cation de Zundel, qui est un H5O2+. Je dois avoir la formule là. Voilà. Il avait imaginé ça. Il avait dit, j'ai fait les calculs thermodynamiques en termes d'agrégation. Il doit y avoir la possibilité, mais personne n'avait jamais mis en évidence le cation de Zundel, sauf nous. Puisque si vous laissez suffisamment longtemps la modélisation, là, ce que je vous ai montré là tout à l'heure, c'est à peu près 6 mois de calcul hein, sur des gros ordinateurs en temps réel, pour avoir cette vision. Et là, en fait, ce n'est pas le temps réel. C'est-à-dire que ça a duré une minute. C'est quelques fractions de seconde. Ça va très, très vite. Et grâce à la modélisation, on a mis à un moment donné en évidence le cation de Zundel. Donc, il avait raison. Ce qu'il fumait était efficace. Voilà. C'est vrai, c'est une nouvelle manière aussi d'aborder la chimie. Parce que quand on fait la modélisation, c'est qu'on va faire pas mal d'expériences sur ordinateur. Et ça, mine de rien, ça fait moins de déchets dans les labos. Et quand on va passer au labo, parce qu'il faut toujours passer au labo, on va y passer... Pas à coup sûr, mais presque. Donc là aussi, intégrer la modélisation dans les laboratoires, dans nos jeunes chercheurs, c'est naturel maintenant pour les. Alors que nous, on a découvert ça, hein, parce que l'informatique n'était pas au niveau où elle est à l'heure actuelle. Voilà.
Oui. Je voulais moi juste revenir sur le CO2 supercritique. Donc à l'état supercritique. Vous nous avez montré que le CO2 avait des propriétés d'extraction comparables à l'hexane.
Oui, tout à fait.
Et moi, il n'y a pas très longtemps, j'avais lu quelque chose où justement, il disait que le CO2 supercritique pouvait être comparable à l'hexane, mais également à d'autres solvants qui avaient d'autres, notamment en termes de polarité, à du méthanol, à de l'éthanol. Donc, ce qui veut dire que, en fait, dans toute la zone supercritique, le CO2 n'a pas forcément les mêmes propriétés, notamment de polarité.
Ouais, et c'est présenté sur ce schéma. En fait, j'ai pas expliqué, je vais vous l'expliquer maintenant. En fait, ce qui est magique avec le CO2 supercritique, c'est pas un solvant, c'est des solvants. Pourquoi ? Un liquide, CO2 liquide, un liquide, ça a une densité. Ce qu'on appelle une masse volumique, qui est assez élevée. L'eau, la densité de l'eau, c'est 1. L'eau gazeuse, ça a une densité très très faible. C'est moins de 0,1. Mais la densité est équivalente ici, et la densité est équivalente ici. 1,0,1. L'intérêt du CO2 supercritique, mais c'est vrai pour tous les fluides supercritiques, vous voyez mon code couleur, vous voyez qu'en fonction de la pression et la température, mon CO2, il va être capable de changer de masse volumique et de densité. Et si je vous dis, en approximation, que le pouvoir solvant du CO2 est directement lié à sa densité, ben vous comprenez que le CO2 qui est ici, c'est un très bon solvant, très dense, et le CO2 qui est là, il est moins bon, parce qu'il est presque gazeux. Et donc, quand je vous dis qu'on a travaillé sur le trichloranion pendant 7 ans, c'est qu'il nous a fallu 7 ans pour trouver quel était le bon endroit, la bonne densité, pour avoir le pouvoir solvant directement adapté au trichloranisole. Et pour tout vous dire, dans le CO2, souvent, on ajoute ce qu'on appelle un co-solvant. C'est-à-dire 1, 2, 3% maximum d'une molécule chimique, essentiellement de l'eau ou de l'éthanol. Et ce pourcent d'eau ou ce pourcent d'éthanol, ça change complètement le pouvoir solvant. Je ne vous l'ai pas dit, mais la caféine, si vous l'extrayez du CO2 sec, il ne se passera rien. Vous extrayez que dalle. Il faut qu'il y ait de l'eau dans le CO2 supercritique, donc un co-solvant eau, pour extraire la caféine. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette possibilité d'ajuster le pouvoir solvant en fonction de la polarité, donc le pouvoir solvant, en fonction de votre besoin. C'est ce qui rend les choses très intéressantes, mais compliqué aussi, parce que du coup, il faut être capable de le gérer. Moi, j'étais en conférence la semaine dernière à Nice, où il y a un gars qui nous dit, je ne comprends pas, je mets au niveau du point critique pour faire de l'extraction, et ça ne marche pas. Je lui ai dit, bah, écoutez, moi, ça fait 25 ans que j'entends, par les témoignages des médecins, que là, ici, là, c'est un trou noir. Là. C'est ce que c'est un trou noir, une zone de densité. Mais là, au point critique, toutes les propriétés du corps prennent zéro ou l'infini. Ici, là, à ce point-là, la compressibilité est infinie. Donc ce point-là, c'est un point, on n'y vient jamais en tant qu'ingénieur, parce que c'est ingérable. Voilà. Il y a encore des gens qui testent.
Alors si on prend un solvant donné, alors, c'est une question que je me suis posée parce que certains annoncent qu'ils sont capables de faire des extractions dans des conditions subcritiques.
Oui.
Et qu'est-ce que tu en penses de ça, par exemple, avec de l'éthanol ?
Alors, moi, si tu veux, le subcritique, je l'aime bien. On va y arriver. Alors, le subcritique, qu'est-ce que c'est ? C'est juste en dessous du point critique.
C'est pas loin.
Et à l'heure actuelle, ce qui est beaucoup utilisé en subcritique, c'est l'eau. L'eau subcritique est utilisée. Quand je vous parlais de Nestlé, par exemple, à la caféine, l'eau. Solide, liquide, gazeux, supercritique. Subcritique, c'est là. C'est liquide, mais je me rapproche du point critique. Donc, c'est de l'eau chaude sous pression. Mais c'est encore liquide. Et donc, du coup, le pouvoir solvant de l'eau est un peu modifié par rapport à l'eau liquide. En gros, le pouvoir solvant de cette eau et le pouvoir solvant de l'eau subcritique, c'est-à-dire de l'eau qui serait à 200 bars et 150 degrés, vous imaginez que ce n'est pas du tout le même pouvoir solvant. Et donc, on fait de la chimie avec ça, on fait de l'extraction. On fait même le traitement des déchets, hein, c'est l'oxydation en voie humide, l'OVH, c'est avec de l'eau subcritique. Voilà. Oui, mais moins que supercritique. Et ça a une différence fondamentale. Alors là, on va rentrer dans les détails. C'est que maintenant, vous imaginez mon autoclave, ma gamelle. Si je la fais passer, si je la fais travailler avec de l'eau supercritique ou avec de l'eau subcritique, je vois que la corrosion n'est pas du tout la même. Parce que dans l'eau supercritique, tous les sels minéraux ne sont plus solubles. Parce que l'eau liquide, quand elle devient supercritique, elle perd de son pouvoir solvant, on va dire, polaire. Et donc, tous les sels minéraux que vous avez dedans, ils vont précipiter. Et si vous avez du chlore ou du fluor, en termes de corrosion, vous allez tout accélérer. C'est pour ça que quand on a des gros volumes à traiter, il vaut mieux passer avec de l'eau subcritique, où là, les conditions sont plus élevées, mais on est encore en eau liquide, dont les phénomènes de corrosion sont beaucoup plus lents. Alors, en subcritique, on voit à l'heure actuelle arriver pas mal, effectivement, l'éthanol. On voit aussi arriver certains alcanes. Moi, je suis circonspect quand on fait de la chimie avec un truc qui explose ou qui est inflammable. Voilà. Mais c'est parce que je suis peut-être un garçon un peu timoré. Hein. Mais je pense que tant qu'on peut travailler avec des solvants qui sont l'eau et le CO2, ça me va bien, avec quelques pouillèmes de solvants. Alors c'est vrai que quand on rentre dans le monde de la catalyse, hein, tes collègues de l'IRSE-Lyon par exemple, alors eux ils s'amusent avec des... Parce que la phase critique, enfin, le point critique, tous les corps purs présentent un point critique. L'air qu'il y a dans la pièce, là, l'oxygène a un point critique, l'azote a un point critique. En les mélangeant, on peut même calculer le point critique de l'air. Donc c'est vrai pour tout. Et donc en catalyse, on s'intéresse beaucoup en ce moment à des solvants en phase supercritique. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Pardon, moi, je suis étonné parce que personne ne m'a parlé de Cagnard de la Tour. Vous ne voulez pas savoir comment il a fait, alors ? Vous en foutez, les chimistes, vous en foutez. Moi, vous avez raison. Hein.
Vas-y.
Bon, Cagnard de la Tour, première promotion de l'école polytechnique. Promotion 1789. Polytechnicien, il a commencé, comme tous les polytechniciens d'ailleurs, dans les ministères. Il s'est ennuyé, mais alors... Oh là là, donc il s'est barré. Il est devenu inventeur à titre personnel. Et il a été anobli en tant que baron parce que c'est lui qui a inventé l'éclairage public de la ville de Paris. Il a inventé la cagnardelle, il a inventé plein de trucs. Et puis un jour, il a dit, ben moi, j'adore Papin, qui avait inventé, enfin, qui est la fameuse machine à vapeur de Denis Papin. Et c'était une époque où on se disait, ben, on va prendre la matière, on va la mettre sous pression, température, c'est génial. Donc là, un canon d'infanterie, dedans, il met de l'alcool. Alors l'alcool, c'est comme de l'eau, hein. C'est-à-dire c'est une phase liquide avec au-dessus la phase gazeuse, la phase vapeur, qui est en équilibre avec le liquide. Il trafique un petit peu ici le bout du canon pour mettre un bouchon à vis. Donc, il peut visser, donc il peut diminuer le volume. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on diminue le volume ? On augmente la pression. Et comme c'est un canon d'infanterie, si je mets dessous un feu de bois, je vais chauffer. Et donc, il a développé un autoclave. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas de quoi en parler à Poitiers de 150 ans après. Là où il a été malin, c'est qu'il a balancé 4 morceaux de silex à l'intérieur et il s'est muni d'un roseau. Alors ce qu'il a fait, c'est de se dire, si là-dedans, je mets des silex, si je bouge ma bouteille et que j'écoute le bruit, les silex ils vont s'entrechoquer dans une phase dense. C'est-à-dire que le bruit sera sourd. Inversement, si là-dedans, vous imaginez que je n'ai que du gaz, de la vapeur d'eau. Donc si je mets des silex et que je les bouge, ils vont être très très clairs. Et en fait, le roseau, c'était pour éviter de se cramer. Parce qu'il n'allait pas mettre la tête directement sur le fût. Donc il montait en pression et en température, il faisait basculer le canon et il écoutait le bruit des silex avec le roseau. Et donc il a cartographié le bruit sourd de la phase liquide, le bruit clair de la phase gazeuse, et à un moment donné, il a entendu un bruit qui n'était pas le bruit de la phase liquide et pas le bruit de la phase gazeuse. Et bien voilà, j'ai mis en évidence un nouvel état de la matière, 1822. On sait tout ça parce qu'il a écrit un article à l'Académie royale des sciences, qui est toujours à la Bibliothèque nationale. Et il a alors, juste pour vous dire comment on écrivait les publications en 1822. En y réfléchissant, il m'est venu à la pensée que la dilatation d'un liquide volatile avait nécessairement une limite au-delà de laquelle ce liquide devait, malgré la compression, passer l'état de vapeur. Moi, quand je lis ça, j'en suis... Voilà, on savait écrire en français à l'époque et les publier étaient en français. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Vous le savez, on écrit tout en anglais. Donc, on sait tout ça. Alors, Cagnard de la Tour, il est vénéré dans le monde entier. Hein. À Berkeley, il y a le jour d'anniversaire de Cagnard de la Tour dans les laboratoires supercritiques et il y a un pot. Hein. Le seul portrait que j'ai trouvé, il est chez Nunes da Ponte, il est à l'université du Portugal. En Angleterre, chez Poliakoff, pareil. Il n'y a qu'en France où il est totalement inconnu. Ça, vous savez, c'est très français, ça. On ne sait pas célébrer nos grands inventeurs. Voilà. Vous voyez qu'avec un peu d'imagination... Alors, bien évidemment, quand je dis ça à mes étudiants, je promets que je chope faire ça au labo. Il est viré, hein, donc bien évidemment. Parce que les préoccupations en termes de sécurité, de sûreté, n'étaient pas celles que nous connaissons aujourd'hui. Mais voilà, c'est une manip qui était magnifique et que j'aime beaucoup vous présenter. Voilà.
Bon.
On va conclure là ?
On conclut là, oui.
Merci à vous.